L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 22h25. La nuit qui est tombée ce soir est froide, sombre. Nous sommes le 15 février 1972 et Annelise Michel monte se coucher. La petite ville de Leibelfing, au cœur de la Bavière allemande, est un havre de paix. Il ne s'y passe, pour ainsi dire, rien. Une normalité presque effrayante, où l'apaisement est synonyme d'ennui, où la piété est le seul phare dans l'obscurité. Dans quelques instants, cette jeune femme de 20 ans vivra à nouveau un terrible épisode. Mais celui-ci, à la différence de tous les autres, sera pour elle le début de la route qui la conduira directement aux enfers. Ses parents, encore assis dans les fauteuils du salon, se regardent sans rien dire. Leur fille, ils en sont persuadés, est possédée par le diable. Il est 22h25, l'heure H de mon histoire. Quelques minutes plus tôt, à la fin d'un repas somme toute habituel, la mère de la jeune femme lui apporte son pilulier. C'est un rituel presque christique. Depuis 2 ans, elle sert un verre d'eau à sa fille, toujours dans le même petit verre à moutarde, et lui tend les 3 petites pilules blanches. Sans dire un mot, Annelise les avale. Elle déteste ces traitements qui, elle en est certaine, entravent l'action de Dieu. Pour autant, elle croit fermement en la science et en ses progrès, même si dans son cas, les bienfaits semblent pour le moins aléatoires. En jeune fille de bonne famille, elle obéit. D'ailleurs, elle a toujours été la fierté de ce couple d'Ouest-Allemands qui s'est réfugié dans la religion. La Bavière est une région magnifique et très pieuse. Située dans le sud-est de l'Allemagne, elle est composée de villes splendides et reconnues dans le monde entier. Munich, Nuremberg, etc. Et au milieu de tout cela, la petite ville de Leibelfing, 78 km² à peine, un peu moins de 4000 habitants, une église et des pèlerins. Annelise se lève de table et se dirige vers l'escalier qui mène à l'étage. Le parquet grince, toujours au même endroit, à la jonction entre la cuisine et le salon. Le même papier peint, aux motifs fleuris et terrifiants de banalité, recouvre les murs. Certaines des boiseries autour des portes commencent à vieillir. Son père parle souvent de les changer. Pourtant, les matchs du FC Bayern lui semblent pour le moment plus importants. C'est un homme foncièrement gentil, un homme bon. Il aime sa famille plus que tout. La fierté d'une carrière professionnelle réussie ne surpassera jamais le bonheur d'avoir pu construire à la force de ses bras un foyer aimant et respectable. Il a rencontré sa femme il y a 22 ans. Au cœur d'un été chaud et béni par la grâce, il l'a croisée à la sortie de ses cours de théologie. Oh, il a pris ça comme un signe du ciel, lui, l'éternel célibataire en quête de la perfection amoureuse qui semblait, jusque-là, hors de portée. Jusqu'à ce qu'il la voie elle. Tout était soudain devenu limpide, clair. Les sentiments nobles qui l'ont assailli ont été partagés immédiatement. Sa future femme, elle aussi, attendait l'évidence. Bon, soyons honnêtes. En voyant arriver ce jeune homme un peu empoté et bedonnant qui lui proposait une balade pour faire connaissance, son sourcil gauche s'est levé. Mais la seconde suivante, elle s'est laissée séduire. Et nous voilà donc 2 décennies plus tard en train de manger un bœuf bourguignon en parlant des travaux à réaliser dans cette vieille bicoque qui leur sert de navire amiral depuis la naissance de leur fille unique. La mère d'Annelise a longtemps cru qu'elle était stérile. Une vieille légende familiale véhiculée par sa grand-mère. Eh bien, en fait, il n'en était rien, et tant mieux. Pourtant, le Seigneur leur a refusé un deuxième enfant. Ils auraient voulu un petit garçon. Mais disons-le, ils ont quand même eu de la chance. Annelise fait leur fierté, même si, depuis 2 ans, la Providence semble l'avoir quittée peu à peu. Tous les soirs, cette mère inquiète pleure et son mari lui passe tendrement la main dans les cheveux qui grisonnent. C'est le même rituel, soir après soir. La nuit qui tombe, en ce 15 février 1972, semble empreinte de quelque chose de différent. Un brouillard, pas inhabituel à cette période de l'année, entoure avec persistance la petite maison. un crucifix, s'est détaché du mur de l'entrée lors d'un coup de vent. Une onde de terreur a parcouru l'échine de la mère d'Anne-Lise, elle qui est à l'affût de chaque signe de la présence maléfique de celui dont elle tait le nom. Son mari, comme d'habitude, a dit que le coup de vent ou dehors en était responsable. Il s'est ensuite mis à table, dévorant ce ragoût de bœuf comme s'il s'agissait de son dernier repas, ou de son premier depuis des jours, à vous de voir. Son tablier à carreaux autour des hanches, elle se met à la vaisselle, embrasse sa fille qui monte, comme tous les soirs à 22h15, pour faire ses prières avant le coucher. Son mari, lui, est parti dans son fauteuil. Ce soir, c'est match. Bayern contre Augsbourg. Une affiche, évidemment, à ne pas manquer. Sa bière à la main, il regarde tendrement son épouse qui lui rend la vie facile. Dans 10 minutes à peine, elle sera à côté de lui. Anne-Lise, elle, grimpe doucement les escaliers. S'agrippant à la rambarde, elle s'immobilise au milieu de la montée. Elle sent derrière elle une présence, comme un souffle rocailleux, puissant, le long de sa nuque. D'instinct, elle vient la couvrir de sa main et se réfugie dans sa chambre. Elle ferme la porte de manière précipitée et se jette presque au pied de sa fenêtre. Dehors, la lune semble la saluer d'un air familier. Elle est presque complètement cachée derrière un voile brumeux qui plonge le quartier dans la quasi-obscurité d'une nuit glaciale de février. Les branches se secouent et ricanent, mues par un vent léger et froid. L'atmosphère au dehors appelle à la prudence et à la prière. La pendule à côté d'elle indique 22h30. Il est l'heure. La jeune femme s'élance entre les bras de son Dieu. Seigneur Jésus, ma journée est terminée. Avant de m'endormir, entre tes mains, je remets mon âme. Je t'offre ma nuit, mon sommeil, pour refaire mes forces, ainsi que mes rêves. Derrière elle, la porte paraît s'ouvrir. Une odeur putride envahit la pièce. Haletante, transpirante de terreur, elle hausse la voix comme pour chasser ce qui se tient là, juste derrière son dos. Je te présente aussi cette journée terminée telle qu'elle est. C'est moi qui l'ai vécue. Le bien que je n'ai pas fait et le mal que j'ai fait, prends-la dans toute sa vérité. L'énoncé de cette dernière phrase, une voix insidieuse se glisse dans sa tête et au plus profond de ses entrailles. Anne-Lise Michel, je te condamne à pourrir en enfer. Viens me rejoindre. Elle est terrifiée, totalement terrifiée. Chacun de ses nerfs, chacun de ses muscles se contracte. Elle hurle maintenant et en bas, le son craché par la télé ne couvre bientôt plus ses ultimes mots. Je la soumets à ton jugement bien humblement. Crois-moi, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait mon possible. Cette journée est finie, elle est inscrite au grand livre de l'éternité. Je ne peux rien y changer. Seigneur Jésus, je ne sais pas ce qu'elle voit à tes yeux, mais telle que je te connais, elle est importante, elle a du prix. Puisque tu apprécies un simple verre d'eau donné à cause de toi, en retour, je ne veux ni cadeau, ni salaire, mais seulement. Rien n'y fait, ni la force de sa croyance, ni celle de ses prières vers ce Dieu auquel elle croit. Le souffle sur sa nuque se fait de plus en plus pressant. Bientôt, la voix dans sa tête prend une ampleur difficile à contrôler. Bientôt, même les yeux fermés, apparaît devant elle un visage qu'elle connaît bien. Asmodée, le surintendant des enfers, ricane de cette peur panique qui l'assaille. Anne-Lise se met alors à hurler à plein poumon, victime d'une nouvelle crise. Sa mère, elle, s'est déjà précipitée dans l'escalier. Notre histoire commence 5 ans plus tôt. Nous sommes alors au cœur du printemps 1967. Les oiseaux viennent de faire leur retour après une longue période de migration. Ils chantent et, lorsque les volets s'ouvrent les matins encore frais de Bavière, ils offrent aux oreilles de ceux qui font encore attention aux petites choses de la vie une magnifique symphonie. Les bourgeons pointent le bout de leur nez. Les feuilles poussent doucement le long des arbres et déjà, on peut sentir poindre la vivacité des roses. Il est 7 heures, en ce 1er mai 1967. Les vendeurs de muguet arpentent déjà les rues en direction du marché de la petite ville de Liebelfing. Les camionnettes klaxonnent, les vélos font marcher leurs sonnettes. Les livreurs de journaux remplissent les boîtes aux lettres. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Chez les Michel aussi, tout va bien. Anne-Lise se réveille doucement et descend prendre son petit déjeuner en famille. Jour férié oblige, ses parents ne travaillent pas. Ils discutent ensemble du programme de la journée. Alors que son père tâche son Marcel avec de la confiture de fraises, sa mère le rouspète. Non, rien n'est différent aujourd'hui. Anne-Lise a envie de prendre le grand air. C'est décidé, les forêts alentours seront le terrain de jeu de la petite famille pour la journée. Sa mère prépare un pique-nique frugal et tout le monde se met en route. Son père porte une salopette et une casquette qui lui donne un vague air de pompiste américain perdu au milieu de l'Allemagne. Sa mère, elle, dans une robe à fleurs déjà démodée, semble tout droit sortie des 70s. La déesse familiale chaote au démarrage, mais sans encombre, parcourt les quelques kilomètres avant le Danube et la forêt de Bavière. Anne-Lise connaît bien cette zone proche de chez elle. Elle aime s'y rendre depuis qu'elle est toute petite. Souvent, après la messe dominicale, elle enfourchait son vélo et venait se perdre au milieu de la forêt. La journée se passe tranquillement, son père fait des ricochets sur le Danube et les deux femmes se moquent de sa maladresse. Peu après le déjeuner, alors que ses parents sont partis marcher un peu plus loin pour se dégourdir les jambes, la jeune femme se sent mal. Cela n'a rien de subi. Ce sentiment s'installe insidieusement, monte en elle comme la première vague meurtrière d'un tsunami. La tension monte. Alors que le soleil est au zénith, une zone brumeuse semble l'entourer progressivement. Elle se sent observée. Elle a froid. Anne-Lise attrape un gilet qu'elle a apporté et l'enfile. Elle est aux aguets. Hésite à rejoindre ses parents à toute vitesse, mais comme pétrifiée, reste là. Tout est calme. Presque trop pour que ce soit normal. De temps en temps, le bruit des galets alentour lui fait penser que quelqu'un s'approche. À chaque fois, elle se retourne subitement, prête à bondir, mais il n'y a rien. Ces bois sont d'étranges lieux de légendes depuis des siècles. Sorcières, vampires, loups-garous, tout y est pour effrayer les enfants bavarois depuis des temps presque immémoriaux. Sa croix autour du cou, la pieuse jeune fille commence à prier pour se protéger. Notre Père qui es aux cieux, elle est coupée net dans son élan par un ricanement diabolique qui semble venir des cimes et fait s'envoler les corbeaux. Dans un strident coassement sorti des profondeurs, on dirait que ces derniers se moquent d'elle eux aussi. Ils se posent sur l'autre rive, ils la fixent d'une terrifiante et inhabituelle manière. C'est là qu'elle le voit. De l'autre côté de la rive, à peine dissimulée par la lisière du bois, deux yeux jaunes et vifs regardent dans sa direction. Au début, prise de panique incontrôlable, elle tire la nappe du déjeuner sur ses genoux et continue de regarder dans la direction des lueurs qui la narguent. Elle ne discerne pas bien tout de suite ce qui se dégage maintenant clairement du bois et qui s'avance vers elle. Deux sabots, des jambes de chèvre, un torse velu, deux cornes enfin, enroulées et noires, comme le jet, un sourire carnassié et un filet de bave monstrueux coulant le long d'un visage émacié. « Mon Dieu !» s'écrie-t-elle. « C'est le diable !» Et instantanément, le vide. La jeune femme vient de perdre connaissance. Ses parents rentrent de leur balade et la trouvent comme endormie. Ils ne s'affolent pas et la réveillent. Anne-Lise est terrifiée, mais ne pipe mot. Comment pourrait-il croire ce qu'elle vient de voir? Elle prétexte la fatigue et demande à rentrer. Elle ne dira rien durant le retour et ira se faire couler un bain pour évacuer ses tensions. La suite des événements s'enchaîne à toute vitesse. Elle s'effondre de manière totalement inexpliquée sur le carrelage froid jouxtant la baignoire, prise de tremblement. Ses parents la conduisent aux urgences. Hospitalisation immédiate, examen et diagnostic. Anne-Lise est devenue épileptique. Les médecins ne laissent pas le choix aux parents. Elle doit absolument être internée en hôpital psychiatrique. L'établissement ne se trouve pas loin du domicile familial. Tous les jours, sa mère vient prier avec elle dans sa chambre. Mais les médicaments qu'on lui prescrit ont un effet catastrophique. Son état empire. Les crises sont régulières et Anne-Lise s'enfonce dans un cercle vicieux qui semble inextricable. Au début, elle ne montre aucun rejet de la religion, s'y plonge même, avec ferveur et piété. Mais petit à petit, les objets saints qui l'entourent commencent à la gêner. Bon, elle ne sait expliquer pourquoi, mais porter sa croix autour du cou devient un supplice. Elle la brûle. Sur la zone de contact entre l'objet et sa peau, elle se gratte de manière compulsive. À chaque fois qu'un prêtre s'approche d'elle pour une messe ou une prière commune, elle déclenche une crise. On augmente la dose de médicaments, mais rien n'y fait. Sa maigreur interpelle. Rien ne semble la soulager. C'est à partir de ce moment-là que des visages démoniaques, dont celui aperçu sur la rive, font leur apparition durant ses prières quotidiennes. Au bout d'une semaine, elle se décide à en parler aux médecins de l'institution. Ces derniers sont à court de solutions. Impossible de l'aider plus qu'ils ne le font déjà. Les équipes de soignants décident de parler de ces révélations aux parents de la jeune fille, qui sont estomaqués. Le retour à la maison s'annonce pour le moins difficile. À sa sortie de l'établissement psychiatrique, sa famille décide de l'envoyer en pèlerinage en Italie. Quoi de mieux que le berceau de la papauté pour tenter de sauver cette âme en perdition ? Très loin de l'aider, ce voyage va accentuer un peu plus les doutes d'une éventuelle possession. Elle part en compagnie d'un ami de la famille issu de la même paroisse qu'elle. Ce dernier la ramène quelques semaines plus tard, plus effrayée que jamais. Il en est certain, elle est possédée. À chaque fois qu'il passait devant un crucifix, un autel ou qu'elle devait entrer dans un lieu saint, elle devait se couvrir le visage, se torder de douleur et rejeter toute eau bénite ou croix à porter. Ses parents, si pieux et très impliqués dans la vie de l'église qu'ils fréquentent, sont inquiets. L'année 1972 se passe ainsi, entre crise et délire répété lié au diable. C'est en 1973 qu'il se décide à demander l'avis de l'église sur un éventuel cas de possession. Le père Ernst Alt, que nous rencontrerons tout à l'heure, écrit au sujet du pèlerinage de la jeune femme. Anne-Lise m'a dit, et Frau Hein l'a confirmé, qu'elle ne pouvait pas entrer dans le sanctuaire. Elle s'en approcha avec la plus grande hésitation, puis dit que le sol brûlait comme un feu et qu'elle ne pouvait tout simplement pas le supporter. Elle a ensuite fait le tour du sanctuaire en décrivant un large arc de cercle et a tenté de s'en approcher par l'arrière. Elle regarda les gens qui s'agenouillaient autour du petit jardin et il lui semblait qu'en priant, ils grinçaient des dents. Elle atteignit la lisière du petit jardin, puis dut rebrousser chemin. Revenant du front, elle dut détourner son regard de l'image du Christ dans la chapelle de la maison. Elle est allée plusieurs fois au jardin, mais n'a pas pu le dépasser. Elle a également noté qu'elle ne pouvait plus regarder des médailles ou des images de saints. Ils scintillaient si immensément qu'elle ne pouvait pas le supporter. Étrange, avez-vous dit. Alors, attendez la suite. Et petit conseil, cramponnez-vous, parce que le pire est à venir.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte leur âge d'un destin aussi fugace que terrifiant. Celui de la pauvre Anne-Lise Michel. Cette jeune fille unique d'une famille pieuse d'Allemagne, de l'Ouest, est victime d'hallucinations démoniaques et de crises d'épilepsie. Après un long et éprouvant séjour en hôpital psychiatrique, un ami qui l'accompagne dans un pèlerinage en Italie déclare qu'elle est possédée par des forces occultes. Son quotidien devient un enfer. Les médicaments prescrits aggravent son état déjà fragile. Les crises l'affaiblissent jour après jour. Sa mère, dos au mur, décide de faire appel à l'église. Sa fille doit se faire exorciser. Mais vous allez le voir, ce chemin long et pénible va pousser la jeune Anne-Lise dans les bras de ceux qui la torturent depuis des années déjà. Les démons. Nous sommes au mois de septembre 1975, dans les rues de Munich. D'un pas pressé, claquant des talonnettes sur les pavés médiévaux de cette cité germanique de toute beauté, le père Ernst Alt s'avance. Il a fait la route depuis sa petite bourgade de Leibelfing. Les traits marqués, des cernes sous les yeux qui enlaidissent un visage pourtant normalement uniforme, il tient dans sa main droite une lettre. Elle est signée d'Anne-Lise Michel. Les mots qu'elle contient le font frissonner. Je ne suis rien. Tout en moi est vanité. Que dois-je faire? Je dois m'améliorer. Les gens, mais c'est tellement cruel. Discours décousu, hallucinations, crises et autres phénomènes du genre, tout porte à croire que la petite est victime de possession. Mais l'Église refuse depuis plus d'un an de la faire exorciser. Tout le monde se range derrière le diagnostic des médecins par peur et jugement d'une opinion de moins en moins favorable à ses méthodes. C'est de l'épilepsie et elle doit se soigner comme telle. En attrapant un paquet de cigarettes sous sa soutane, le père Ernst Alt hoche la tête d'un air réprobateur. Non. La jeune femme n'est pas épileptique. Rien de ce qu'elle vit n'est lié à la médecine des hommes. Elle a besoin de l'aide de l'Église. Essoufflé par son parcours du combattant, il finit par arriver dans le centre-ville, tant bien que mal. Devant lui se dresse la cathédrale de Munich, phare dans la tempête d'un monde de plus en plus incertain. Il rencontre aujourd'hui l'évêque Joseph Stangl, un homme dont la prudence est au moins aussi importante que sa foi. C'est lui qui refuse à tout prix l'exorcisme. Mais ce matin, avec cette lettre, le prêtre espère le faire changer d'avis. Oh, ce ne sera certainement pas simple, certes. Mais des combats, l'homme est habitué à en mener. L'évêque l'attend au cœur de la sacristie, en pleine prière. Ernst fait le choix de s'asseoir derrière lui. Au bout de quelques minutes, devant l'immobilité de son supérieur, il fait mine de s'éclaircir la gorge. L'évêque se retourne, le salue. Commence alors une âpre négociation entre les deux hommes de Dieu. Elle dure plus d'une heure et les secrets des alcôves m'empêchent aujourd'hui de vous en fournir avec précision sa teneur. Ernst Alt, le prêtre partisan de l'exorcisme de la jeune fille, tout comme ses parents d'ailleurs, finit par gagner. L'évêque cède à la lecture de la lettre enfin. Mais attention, personne ne doit être au courant qu'on mène chez la petite Michel des séances de ce genre. Et surtout, il insiste lourdement sur ce point, les exorcismes réalisés devront absolument être menés à partir du Rituale Romanum, un livre liturgique auquel on prête des vertus puissantes et particulières. L'évêque file dans les recoins sombres de la cathédrale pour en sortir un exemplaire. Il est daté de 1652. En le remettant au prêtre de la bourgade, son supérieur le met en garde. Il a contacté l'un des exorcistes les plus célèbres et compétents du monde germanique, mais il devra l'assister durant les séances. Et surtout, bien se servir de cet exemplaire et pas d'un autre. L'air grave, les cernes plus creusées encore qu'à son arrivée, le prêtre Ernst tourne les talons et le diable aux trousses rentre à toute vitesse auprès de la famille Michel. Cette fois, il a une bonne nouvelle à leur annoncer. Une semaine plus tard, la première séance d'exorcisme d'Anne-Lise Michel, la jeune femme possédée, a lieu. Celui qui la conduit s'appelle Renz. Il est au cœur des armées de l'Église depuis plusieurs décennies. Le cas de la petite Michel, à première vue, ne lui fait pas peur. Les premières séances sont éprouvantes, mais ne sortent pas de l'ordinaire. Ce n'est que durant la troisième que la jeune fille prend subitement une voix qui n'est plus la sienne. Comme venue des profondeurs, elle invoque sa volonté de mourir pour expier les jeunes capricieux de l'époque et les prêtres apostats de l'Église moderne. Un rire horrible vient en ponctuation d'insultes ignobles et obscènes. Les prêtres, décontenancés, ne se laissent pas faire, tentent de repousser le mal, à raison de 2 séances par semaine, parfois durant 4 heures d'affilée. Ils sont en première ligne pour combattre le démon. Alitée, faible, Anne-Lise de temps en temps redevient elle-même. Elle prie constamment. Les photos qui sont faites d'elle sont absolument terrifiantes. Couverte d'hématomes, maigre au possible, son visage torturé laisse apparaître les traits des démons qui se sont emparés d'elle. Ernst Halt, devant tant d'horreurs, hallucine. En accord avec la famille, il apporte un magnétophone. Les fluctuations de la voix de la jeune femme, le contenu de ses propos, tout fait froid dans le dos. Ce sont près de 67 séances d'exorcisme qui vont être menées sur la petite Michelle, avec un acharnement qui ne peut pas être décrit ici. Les enregistrements audio, toujours disponibles aujourd'hui, nous donnent une idée de l'ampleur des souffrances de la jeune femme. Elle s'exclame, entre autres, 4 semaines après le début de la procédure, d'une voix rocailleuse et très éloignée de son timbre habituel, « La haine vous anime. La paix n'est pas là en haut. La haine ne vous donne pas la paix. Vous n'aurez jamais la paix. La paix est seulement là, au sommet. » Chaque fois que l'exorciste prononce les paroles « Au nom du Père », elle se tord dans d'atroces gémissements, vomit, se vide complètement. « Maintenant je suis maudit », hurle-t-elle d'une voix terrifiante. « Foutez-moi le camp !» hurle le démon durant les prières. Mais pour être efficace contre un démon, il faut connaître son nom. Alors qu'on lui demande si elle est Judas, elle répond non. Vient ensuite le nom de Fleischmann, et là, elle répond distinctement « Oui, maintenant je dois m'en aller ». Cet homme a vécu au XVIe siècle. Il était prêtre. Défroqué et excommunié pour des comportements allant de l'alcoolisme au meurtre, sa présence ou supposée présence chez Anne-Lise Michel intrigue les ecclésiastiques présents. Au total, ce ne sont pas moins de 6 esprits qui seront décelés chez elle. Lucifer, Cain, Judas qui se cache au départ, d'où sa négation, et plus particulier encore, Néron et Hitler. Anne-Lise est assaillie de toutes parts. Les cris qui résonnent dans la pièce. Le sang et les odeurs putrides qui se dégagent de cet endroit sont indescriptibles. La terreur qui s'est emparée de ses parents l'est tout autant. Son père reste éloigné d'elle, alors que sa mère, jusqu'au bout, reste près d'elle, entre les séances. L'année 1976 qui s'annonce est marquée du sceau des impies et de la mort. L'hiver et le printemps sont les prémices d'une fin annoncée depuis longtemps. À bout de force, totalement dévastée par les épreuves qu'elle endure chaque semaine, incapable de se déplacer seule, refusant de manger, Anne-Lise traverse le mois de juin comme une ombre. Déjà, les forces obscures l'appellent à elle. Son corps est bien plus faible que son âme, qui demande à être sauvée par les prêtres. Ces derniers, particulièrement affectés par ce marathon qui met leur foi à rude épreuve, tentent toujours de la sauver. Mais les maléfices sont puissants. Anne-Lise Michel se prépare donc à mourir.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, nous vivons l'heure H d'un des cas de possession les plus célèbres de l'histoire, celui d'Anne-Lise Michel. Au cœur d'une Bavière profondément pieuse et religieuse, cette jeune femme est victime de crises qui se rapprochent de l'épilepsie, et ce, depuis des années. Pour autant, sa famille ne croit pas à ses explications médicales classiques. Surtout que les médicaments prescrits par les médecins ne font qu'empirer son état de léthargie et ses visions. Ils parviennent tant bien que mal à convaincre l'Église catholique de la faire examiner par un prêtre exorciste recommandé par le Vatican. Mais après 67 séances parfois longues de 4 heures, la jeune femme s'apprête à rendre les armes. Non sans avoir vaillamment combattu les éléments qui la tourmentent, son corps arrive au bout de ses forces. La culture du secret entretenue autour de cette affaire ne va pas tarder à imploser. Bientôt, la justice des hommes s'occupera des coupables de ce décès. Et peut-être que ces derniers ne s'appellent pas Judas ou Lucifer. Nous sommes le 1er juillet 1976, aux premières heures de la matinée, au sein de la petite maison du couple Michel. Au dehors, déjà, les oiseaux chantent et les arbres se réveillent. Une des premières journées chaudes de l'été se prépare. Chaque brin d'herbe qui s'éveille en témoigne. Les lapins filent se réfugier à l'ombre de leur terrier et le ruissellement sur les rives du Danube annonce avec bonheur le retour des jours heureux. Enfin, pas pour tout le monde. À l'intérieur de cette maison marquée du sceau de l'infamie, c'est l'enfer qui, depuis presque 2 ans maintenant, est à la manœuvre. Plus pour longtemps, cela dit. Dans une chambre cloisonnée et dans un état déplorable, Anne-Lise Michel, 23 ans, se meurt. Voilà une semaine qu'elle ne se lève plus, qu'elle ne boit plus et ne mange plus. L'issue, malgré les efforts des prêtres, devient inévitable. Elle arrête de respirer ce matin-là, dans un dernier râle, digne des films d'horreur les plus terrifiants, peu après le lever du soleil, comme un symbole. Les prêtres, eux, assaillis par un terrible sentiment d'échec et de culpabilité, s'agenouillent près du lit souillé. Ils prient une dernière fois pour le salut de la jeune femme. La lumière a-t-elle vaincu les ténèbres malgré son décès? Ou bien tous ses efforts n'ont-ils eu d'autres effets que de la pousser un peu plus vers la mort? Pour eux, il ne fait aucun doute qu'elle est décédée de la suite de cette possession multiple qu'elle a elle-même confessée. Ses parents, eux aussi, sont de cet avis. Quand sa mère repense à ses mois continus de combat contre les ombres, à ce qu'elle a vu, entendu, elle tressaille. Les prêtres demandent expressément aux parents de garder le silence sur tout ce qui a pu se passer dans cette chambre de Bavière. Alors, Anne-Lise est inhumée en toute intimité, sans aucune autre fioriture. Tout le monde pense alors que l'histoire se termine là. Il n'en est rien. En réalité, elle ne fait que commencer. La justice divine est une chose importante dans cette affaire. Mais la justice des hommes, elle, va rattraper l'Église à grandes enjambées. Peu de temps après la mort de leur fille, les langues se délient dans le voisinage et certaines vont laisser entendre à la police que les parents y sont pour quelque chose. Est-ce vraiment le cas? Peut-on parler de négligence de la part de l'Église ou des parents? C'est ce que le procès qui s'ouvre en 1978 va tenter d'élucider. Dès la fin de l'année 76, les deux parents et les deux prêtres sont cités à comparaître au tribunal pour homicide involontaire. Une véritable bombe explose. Devant les premiers articles incendiaires qui sortent par voie de presse, l'état est clair. La justice ne préconise qu'aucun des précités ne soit emprisonné. Au lieu de ça, amende pour les prêtres et réprimande pour les parents qui ont assez souffert. Le procès traîne à s'ouvrir. On attend un peu que la pression redescende. Et ce n'est que le 30 mars 1978 que s'ouvrent les débats dans une ambiance électrique. Les experts médicaux qui se succèdent à la barre sont catégoriques. Jamais Anne-Lise n'a été possédée. Jamais. Les manifestations démoniaques, les visions, les voix changeantes, uniquement des dérives psychologiques liées à son état. L'état dans lequel est morte la jeune femme est également pointé du doigt. Ces génuflexions répétées, on parle de plus de 600 d'affilée, ont provoqué une rupture des tendons et une fracture au niveau de ses genoux. Cela explique le fait qu'elle ne pouvait plus se déplacer toute seule. Les experts médicaux enfoncent le clou. Une semaine avant sa mort, il était encore possible de la sauver. Mais une pneumonie combinée à une malnutrition et une déshydratation sévère l'ont poussée dans la tombe. Pas le diable, non. La négligence. Le procureur est le premier choqué par une telle situation. Il reconnaît les 4 inculpés coupables de négligence et pour l'exemple, tous sont condamnés à 6 mois de prison. Les enregistrements des exorcismes diffusés lors du procès terrorisent les parties en présence. La presse couvre l'événement. De nombreux badauds viennent également assister à ce procès totalement hors norme. Qui a tué Annelise Michel alors? Les démons? La religion? Ses parents? Je vous laisse vous faire votre propre avis sur cette question des plus complexes. Enterré à la hâte dans un cercueil à peine décent, ses parents réclament son exhumation. Le 25 février 1978, avant le procès donc, on déplace le corps dans un cercueil en chêne de bonne qualité. Alors qu'ils souhaitent voir la dépouille de leur fille, les époux Michel en sont empêchés. Ils envoient alors le tandem de prêtres afin qu'ils puissent leur faire un rapport. Mais là aussi, interdiction pour eux d'accéder à la morgue. Ils s'indignent, demandent des comptes. Aucune justification ne leur parvient. Annelise est de nouveau mise en terre en leur présence à tous. Mais seuls des experts médico-légaux auront pu voir la dépouille. Ils notent un état de détérioration somme toute normal après 2 ans sous terre. La tombe, elle, reste aujourd'hui un lieu de pèlerinage important. Je vous propose de nous quitter aujourd'hui avec une anecdote des plus surprenantes concernant cette affaire. En 2013, alors que le nom de la jeune femme est resté dans les mémoires comme synonyme d'horreur absolue, sa maison, depuis longtemps désertée par ses parents, est ravagée par un incendie. Les flammes la détruisent en quelques heures. La police conclut rapidement à un départ de feu totalement criminel. Cependant, des voisins qui vivent là depuis les années 70, sous l'étau d'un endroit qu'ils imaginent diabolique, eux sont formels. À la fenêtre de la chambre d'Annelise ce soir-là, c'est bien son cadavre qu'ils ont vu mettre le feu au rideau. Je vous laisse avec le soin de démêler la part de fantasmes et de légendes autour de toute cette histoire et la liberté de croire ou non que parmi nous, tapis dans l'ombre, cachés sous nos matelas, agissent des forces sombres et démoniaques. Petit conseil, jetez toujours un coup d'œil sous votre lit ce soir parce que je crois que c'est aussi ce que je vais faire moi-même. Voilà pour ce récit glaçant que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.